Nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons de nous avoir rassemblés à ton appel, à l'écoute de ta voix. Sois béni, Seigneur, pour ce culte qui nous donne l'occasion de te louer, de te manifester notre reconnaissance, notre attachement, notre fidélité. Seigneur, remplis-nous de ta présence et de ton esprit maintenant, pour que nous puissions entendre ta parole, que nous puissions entendre ta voix, et que cette parole, Seigneur, puisse nous changer, nous transformer, toujours plus à la ressemblance de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Depuis plusieurs semaines, nous apprenons comment Dieu veut nous détacher des choses du monde pour nous attacher à lui, que ce soit nos pensées, nos richesses, nos besoins, nos inquiétudes ou toute autre chose. Dans le chapitre 12 de l'évangile de Luc, qu'on a déjà abordé la semaine passée, le Seigneur encourage ses disciples par la promesse des soins fidèles du Père, ainsi que par son dessein de leur donner le royaume. En attendant, ils doivent être étrangers et pèlerins, ne se donnant aucun souci à l'égard des circonstances par lesquelles ils passent ici-bas. Quant à la foule, le Seigneur lui fait voir que l'homme dans l'état le plus prospère ne saurait s'assurer un jour d'existence. C'est ce que nous avons vu dimanche dernier. Mais il ajoute à ceci une révélation positive. Ses disciples devaient l'attendre constamment du jour au lendemain. Et non seulement le ciel serait leur portion, mais là, ils jouiraient de tout dans le repos. Ils seraient assis au banquet, le Seigneur lui-même les servant. Dans la suite du chapitre, Jésus introduit le thème futur du jugement de l'Église et du monde, ainsi que le jugement présent des Juifs. Alors je vous invite à la lecture de la parole ce matin. Dans Luc, au chapitre 12, les versets 49 à 59. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien je suis pressé qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Père contre fils et fils contre père, mère contre fille et fille contre mère, belle-mère contre belle-fille et belle-fille contre belle-mère. Il disait encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et cela arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. » Hypocrite, vous savez distinguer l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne distinguez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'agent et que l'agent ne te mette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras point que tu n'aies payé jusqu'à la dernière petite pièce. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Feu, angoisse, division, hypocrisie, juge, prison, dette. Disons-le tout de suite, ce passage n'est sûrement pas ce que nous préférons lire. Il peut même nous déranger, tant cette façon de parler semble détonner avec le Jésus rempli de compassion que l'on voit ailleurs. Il semble que parfois nous soyons, nous aussi, tombés dans le piège de nous faire notre propre image de Dieu. Un Jésus pacifique et conciliant, un modèle humain à imiter par sa douceur et sa bienveillance. N'avons-nous pas oublié qu'il est Dieu et qu'il est donc aussi sainteté, justice, vérité, lumière? C'est parce qu'il est aussi tout ça que ce passage de l'Évangile nous montre quels sont les effets de la présence de Jésus ici-bas. Si Jésus avait été reçu lorsqu'il est venu sur la terre, il aurait apporté la paix que les anges célébraient à sa naissance. Mais la méchanceté des hommes amène l'effet contraire. Dès le moment du rejet de Jésus, le feu était allumé. C'est-à-dire que le jugement commençait. Le feu est toujours une figure du jugement. Et ça, c'est l'effet de sa présence. Il ne pouvait qu'agir comme celui qui mettait au grand jour l'état de l'homme. Le feu est le symbole constant du jugement divin et c'était moralement vrai déjà à ce moment-là. Jésus était venu sauver, mais s'il était rejeté, c'était vraiment un embrasement de feu. Et ça ne contredit en rien la grande vérité de sa grâce. Lui-même était sur le point de passer par la souffrance la plus profonde en raison de l'antagonisme inévitable du caractère de Dieu vis-à-vis du péché, lequel n'était pas encore jugé. Ce péché allait être jugé dans la personne de Christ, absolument sans péché, et pourtant fait péché par Dieu sur la croix. Dans son dévouement d'amour en glorifiant Dieu, il voulait être un sacrifice pour le péché. Cela nous amène à la suite, ce fameux baptême dont Jésus devait être baptisé. Et jusqu'à ce que celui-ci soit accompli, le Seigneur était à l'étroit, dans certaines traductions. Il ne pouvait pas encore libérer son amour dans toute sa plénitude. Un peu comme si son amour était retenu dans son cœur, parce que la question du péché n'était pas encore réglée. Il y avait des barrières, en fait, parmi les hommes, et par-dessus tout, il y avait un empêchement du côté de la gloire de Dieu. Le péché se dressait encore entre l'homme et Dieu. Mais dans sa mort et sur la base de sa mort, il n'y a plus de limite à la proclamation de l'amour divin. Là où le péché abondait, la grâce a surabondé, écrit Paul aux Romains. Auparavant, cet amour était davantage promis à l'intérieur des limites d'Israël, quoi qu'on trouve déjà des miettes de miséricorde au-delà. Hein. Dieu voulait être vrai et fidèle à sa parole. Mais il ne pouvait pas encore étendre librement son amour aux Samaritains, au monde en général, avant la croix. Et après la croix, c'est justement ce qu'il fait. On comprend peut-être mieux pourquoi le Seigneur était à l'étroit jusqu'à ce que cela soit accompli. Par sa mort, Jésus permettait à la grâce d'être connue de tous et partout. Cependant, jusqu'au jour où les jugements délivreraient la terre de tous les méchants pour établir le règne de paix du Fils de l'homme, il y aurait toujours conflit entre ceux qui recevraient le Seigneur et ceux qui le rejetteraient. Ce passage de division est difficile à entendre, à lire, mais hélas, c'est le résumé exact de ce qui s'est passé depuis que l'Évangile a été prêché dans le monde. La division au sein même des familles, brisant les liens les plus étroits selon la nature. Et ça résulte de la manifestation de la lumière au milieu des ténèbres. Cette lumière qui révèle tout, qui montre le mal dans lequel se trouve l'homme. Celui-ci étant orgueilleux et ennemi de Dieu, devient en général immédiatement persécuteur quand il est mis à nu. C'est pourquoi, encore une fois, l'homme étant ce qu'il est, il ne fallait pas être surpris si la présence de Christ produisait des conflits et de l'opposition, et si les hommes étaient poussés aux jalousies, aux envies, à la haine, à l'inimitié. Toutes ces choses devenaient manifestes chez des gens chez qui on n'avait rien vu de pareil avant. Et on voit bien, les gens peuvent aller leur chemin tranquillement, mais Jésus est toujours un sujet de test pour les cœurs. En l'absence de foi, on ne sait jamais ce que l'homme est capable de faire quand la vérité, et c'est Jésus qui est la vérité, quand la vérité le met à l'épreuve. Comment va-t-il réagir? C'est ce qui provoque la division dans les familles et ailleurs aussi. Pas du tout parce que la grâce de Christ en soi provoque la discorde, c'est pas du tout le cas, hein. Mais c'est plutôt le mal chez l'homme qui combat la vérité, qui le met en lumière. Et la haine de l'homme qui refuse l'amour dont il ne sent pas le besoin. Nous voyons avec un tel passage combien est grande l'erreur de ceux qui pensent que l'Évangile doit pacifier le monde et que sa prédication va amener tous les hommes sous le règne de Christ, ici-bas déjà. On voit bien avec ce texte que l'Évangile fait sortir du monde celui qui le reçoit. La vérité sépare ce qui est de Dieu et de l'homme. Et tant que cette œuvre s'accomplira, l'opposition et la persécution auront lieu. Une fois le temps de la patience de Dieu arrivé à son terme, les croyants seront retirés de ce monde et le jugement tombera sur ceux qui auront rejeté la lumière de l'Évangile. Alors le règne de Christ s'établira avec ceux des Juifs et des non-Juifs qui auront cru à l'Évangile du royaume qui sera prêché après l'enlèvement de l'Église. Il y a beaucoup de liens entre ce passage et le texte de l'Apocalypse qu'on étudie en ce moment. C'est parce qu'il revient bientôt, amenant le jugement qui mettra fin au temps de la grâce, que Jésus justement avertit les foules dans la suite de ce texte. Il ne dit pas juste « je viens, débrouillez-vous ». Non, il avertit. Et les versets donc qui suivent contiennent un avertissement solennel, alors pour les Juifs, mais aussi aujourd'hui pour le monde. Les Juifs auraient dû, d'après ce que dit Jésus, comprendre ce que Dieu leur voulait en leur envoyant son Fils. Alors je reviendrai dans un instant sur la parabole avec les nuages, le vent, etc. Mais l'idée développée par Jésus, c'est que puisqu'ils savaient interpréter les prévisions météorologiques, ils auraient dû connaître le caractère moral du temps dans lequel ils vivaient. Car Jésus était présenté de manière à le leur faire comprendre. Ils auraient dû discerner que l'orage des jugements de Dieu allait éclater s'ils ne recevaient pas le Seigneur et s'ils ne profitaient pas de la bénédiction qu'il leur apportait. Le temps où Dieu ne tolérerait plus son peuple s'approchait rapidement. Mais avant l'exécution de ces jugements, le peuple était comme un homme en chemin avec sa partie adverse pour comparaître devant le magistrat. Il devait, dit Jésus, s'efforcer d'y échapper, car s'il entrait en jugement, il n'en sortirait pas avant d'avoir tout payé. Hélas, Dieu était la partie adverse de son peuple. Au lieu de rejeter Jésus, ils auraient dû se réconcilier avec lui, puisqu'il était, c'est Paul encore qui nous le dit, hein, Jésus était Dieu réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leur faute. Et la réconciliation, c'est ce qu'ils ne firent pas comme nation, c'est pourquoi ils ont été livrés aux Romains, qui les ont dispersés dans le monde entier, en tout cas ceux qu'ils n'ont pas mis à mort. Une terrible persécution a commencé, hein, sous l'Empire romain. Et aujourd'hui encore, ils se trouvent sous les conséquences terribles du rejet de leur Messie, jusqu'au temps que nous savons être prochain, où selon Ésaïe 40, il sera dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son temps de détresse est accompli, que son iniquité est acquittée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel le double pour tous ses péchés. » Ce passage éclaire vraiment bien notre étude du livre de l'Apocalypse. Israël était donc mis à l'épreuve maintenant. Ils étaient en chemin, ils avaient l'occasion d'être délivrés. Allaient-ils refuser, allaient-ils tout jeter loin? Ça dépendait d'eux. S'ils n'étaient pas attentifs pour faire usage de ce que Dieu leur accordait maintenant, avec la présence de Jésus, eh bien la justice devrait suivre son cours. Et dans ce cas, ils seraient traînés devant le juge, etc., le magistrat qu'ils jetteraient en prison. Ils n'en sortiraient que quand ils auraient tout payé. Voilà en fait l'histoire du peuple juif depuis la venue de Jésus. Comme s'ils étaient aujourd'hui avec cette cette parabole, on pourrait dire, comme s'ils étaient encore en prison et qu'ils ne seraient délivrés que quand la dette serait payée selon les voies de Dieu. Avec cette parole d'Ésaïe que nous avons dit tout à l'heure. Sa miséricorde prendra la cause de son peuple en main au dernier jour, parce que Dieu est fidèle à ses promesses, Dieu est fidèle à son élection, mais il est aussi fidèle à sa justice. Ainsi, ce passage nous présente Israël comme au terme de la patience de Dieu, mis de côté pour un temps, et remplacé, pas comme peuple élu, mais comme témoignage sur la terre, par l'Église. Et cette dernière, de la même façon qu'Israël, a quand même manqué le but. Au lieu de se séparer du monde en témoignant pour son Seigneur, elle s'est bien souvent assimilée à ce monde. Dieu, Jésus, en tout cas ici, prévient, avertit. La patience de Dieu arrive à sa fin, chose que tous devraient discerner. Le Seigneur Jésus va venir enlever les siens pour les délivrer de la colère de Dieu qui fondra sur le monde. Ceux qui croient la parole de Dieu le savent et reconnaissent déjà maintenant les caractères un peu solennels de ce temps. Encore Paul aux Romains qui nous dit « Connaissant le temps, que c'est déjà l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est fort avancée et le jour est approché. » Et il est vrai que l'état moral de la chrétienté, plus encore que les événements politiques, fait constater que nous sommes à la fin de l'histoire du christianisme sur la terre. Une histoire qui va voir commencer le temps des jugements. Il suffit de lire 2 Timothée, par exemple, où sont décrits les caractères moraux des hommes d'aujourd'hui. Nous savons que tout ça ne va pas être restauré, mais en tout cas, l'appel à se mettre en règle avec la partie adverse s'adresse encore à chacun individuellement, pendant que dure ce temps de la grâce. Et bientôt, si nous n'avons pas le Sauveur, il faudra paraître devant le juge. C'est pour rendre attentifs les indifférents et les incrédules que Dieu a permis les terribles événements actuels. Et on voit bien que beaucoup prêtent l'oreille à la voix de la grâce en présence de la mort qui les guette, en tout cas en présence de l'épreuve. Et c'est parce que le cœur naturel est tellement endurci que Dieu permet parfois que les fléaux se prolongent afin de faire grâce à un plus grand nombre encore. Non seulement sur les champs de bataille ou dans les hôpitaux, mais partout, et particulièrement à ceux pour lesquels Dieu serait encore la partie adverse. Comme si une voix solennelle leur disait « Mets-toi en règle avec lui avant d'être traîné devant le juge. » Alors je reviens maintenant à la parenthèse météo, qui est vraiment intéressante. La pluie, dans l'Écriture, sans exception, est une image de la bénédiction. C'est rare que nous, on considère la pluie comme une bénédiction, pas toujours en tout cas. Mais dans l'Écriture, c'est toujours le cas. Et dans l'Ancien Testament, la pluie renvoie aussi symboliquement et directement au Seigneur Jésus, qui est le Messie du peuple d'Israël. Par exemple, le psaume 72 parle de lui en disant « Il descendra comme la pluie sur un pré fauché, comme les gouttes d'une ondée sur la terre. » Salomon aussi a parlé de plus grand que lui en disant « Dans la lumière de la face du roi est la vie, et sa faveur est comme un nuage de pluie dans la dernière saison. » Ainsi, nous ne faisons pas fausse route en admettant que le Seigneur parlait en premier lieu de lui-même dans cette petite parabole. Ce temps-ci que les Juifs ne discernaient ni ne comprenaient était le temps de sa présence, et il était, lui, comme une ondée sur une terre sèche. C'est de ce temps que les prophètes de l'Ancienne Alliance avaient prophétisé. Et maintenant, les prophéties étaient accomplies. Le roi lui-même était venu au milieu d'eux et déversait ses bénédictions sur eux. Malgré cela, ils ne l'avaient pas reconnu, ils ne voulaient pas le reconnaître. C'est la raison pour laquelle le Seigneur les qualifie d'hypocrites et qu'après la pluie, il mentionne la venue du vent du sud, un vent qui vient des déserts brûlants, qui apporte généralement une chaleur torride sur le pays. Là aussi, c'est un signal sérieux du jugement qui allait venir. Alors, si nous appliquons tout cela à nous et à notre temps, ne devons-nous pas dire que nous vivons aujourd'hui dans un temps spécial de bénédiction ? Est-ce qu'il ne faut pas reconnaître que ce temps de la grâce est vraiment un temps prodigieux ? Dans ce temps, Dieu fait annoncer par ses serviteurs l'évangile de Jésus-Christ comme jamais auparavant, et comme cela ne sera plus jamais. Celui qui accepte par la foi ce témoignage, il le bénit, pas seulement de bénédictions terrestres, mais de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alors demandons-nous avec ce texte quelle sera notre part. Avons-nous ajouté foi à l'évangile de Dieu concernant son Fils, ou nous sommes-nous parfois égarés ou contentés d'une profession creuse de christianisme ? Avons-nous reconnu et compris les signes du temps, que le juge se tient à la porte ? Ce merveilleux temps de la grâce dans lequel nous vivons va prendre fin. Dieu l'annonce. Il nous faut en être conscients. Il nous faut discerner ces temps-ci. La parole du Christ met à nu les contradictions du présent. Elle met en évidence et en question toutes nos idolâtries pour nous faire progresser dans la paix véritable. Cette paix qui n'est pas un faux semblant de surface, ne pas faire de bruit, ne rien déplacer, ne rien dire, faire du compromis tout le temps avec tout le monde, ce n'est pas du tout la paix qui est annoncée par le Christ. Au contraire, la paix véritable, c'est le shalom annoncé par les prophètes, mis en œuvre et en chantier par Jésus. Cette paix passe par la vérité, par la justice, par la réconciliation et par la miséricorde. C'est à cela que les disciples et nous aussi après eux sommes appelés. La foi chrétienne consiste en un engagement personnel, une réponse à l'appel lancé par Jésus à le suivre. Jésus réclame ainsi la première place, comme nous le lisons depuis plusieurs semaines. Ce n'est pas une affaire de préférence ou de jalousie, c'est une réponse à la question « Quelles sont pour toi les valeurs essentielles ?» L'Évangile prime sur toute autre chose. C'est ainsi que l'on peut comprendre les paroles du Seigneur. Alors encore une fois, il s'agit bien de notre consécration. Il s'agit pour nous de suivre Jésus. Le suivre lui plutôt que nos inclinations naturelles, nos affections, nos intérêts, nos ambitions, nos rêves. Le suivre lui plutôt que tout cela, car il s'agit de préférence. Lui plutôt que la vie que nous imaginons. La vraie vie n'est pas dans le pouvoir ou dans l'enrichissement. La vraie vie, c'est d'être un disciple du Christ. Alors que le Seigneur nous encourage, chacun personnellement, sur ce chemin, et aussi collectivement en tant que communauté. Amen.